Bonjour à vous tous. Comme notre monde a changé en quelques jours, il semble même qu'il change d'heure en heure. Nous sommes témoins d'une crise mondiale dont aucun d'entre nous n'a jamais fait l'expérience auparavant. C'est pourquoi, au cours des prochaines semaines, je ferai régulièrement pour l'Église une mise à jour de la situation. Elle aura lieu vers la fin de la semaine. Nous vivons sur une terre ronde avec des fuseaux horaires différents et même des jours différents. Il est donc difficile de dire exactement quand cela va sortir chez vous. Ce sera le jeudi ou le vendredi vers la fin de la semaine. Pour certains d'entre vous, ce sera déjà le sabbat parce que vous changez de jour avant nous. Comme la plupart d'entre vous le savent, la conférence ministérielle générale a été annulée, reportée, et j'aimerais en parler très brièvement. Nous en avions discuté peu après mon retour d'un voyage autour du monde, où j'ai visité certaines de nos congrégations, tenu des réunions avec nos ministres à quelques endroits et donné des conférences du monde de demain. Une dizaine de jours avant la rencontre du Conseil des anciens, nous avions discuté et déterminé que nous pouvions encore organiser la conférence ministérielle générale mondiale. Mais les choses ont commencé à bouger très rapidement. Et le premier jour du Conseil des anciens, nous avons discuté à nouveau de ce que nous avions prévu de faire, en faisant des mises à jour, en organisant des réunions et en examinant la situation à mesure qu'elle évoluait. Nous avons décidé qu'il serait préférable d'annuler la conférence, de la reporter, et cela s'est avéré être un réel avantage pour nous. Nous n'avions pas prévu cela, mais comme les choses avaient évolué si rapidement, plusieurs entreprises avaient changé leurs pratiques, y compris l'hôtel où nous allions tenir la conférence. Ainsi, nous allions avoir à rembourser qu'une très petite pénalité pour couvrir seulement le coût de la nourriture qui avait déjà été achetée pour nous, et presque tout le reste des frais allait nous être remboursé directement ou être crédité pour une conférence future, sans limitation de temps. En l'annulant, l'événement, à ce moment-là, l'Église a pu économiser des dizaines de milliers de dollars, même si ce n'était pas pratique pour certains, en particulier pour ceux qui venaient de l'extérieur du pays pour le Conseil des anciens et pour la conférence ministérielle qui devait arriver plus tôt en raison de leur voyage. Certains ont voyagé plus tôt. Aux États-Unis et ailleurs, une directive a été donnée pour que les rassemblements ne dépassent pas 250 personnes, ce qui, bien sûr, nous aurait empêché de tenir la conférence. Ce chiffre a ensuite été porté à 100. Et puis, je crois que c'était lundi de cette semaine, j'ai eu une réunion avec ceux qui étaient ici dans la région, les ministres de même que certains de nos collaborateurs. Je leur ai fait remarquer que ce nombre était tombé à 50 et qu'il pourrait encore diminuer. Je ne le savais pas, mais avant la fin de la journée, quelques heures plus tard, le président Donald Trump avait décidé d'abaisser cette limite pour les réunions à 10 personnes. Cela a donc considérablement changé nos vies et nos plans. C'était une recommandation, mais cela a été souligné. Si, en tant que société, nous ne vivions pas ces recommandations, elles risquent de devenir obligatoires. C'est donc un grand changement dans notre monde. Les personnes âgées ont reçu l'ordre de se mettre à l'abri. J'aime bien la phrase qu'une de nos jeunes femmes m'a mentionnée dans un courriel. Elle a dit qu'elle se sentait comme si elle était sur l'arche de Noé sans les animaux. Et donc, plusieurs vont se préparer à tenir bon sans les animaux, à moins qu'ils n'aient un animal de compagnie chez eux. C'est un changement de vie pour beaucoup d'entre nous, et ce, pour plusieurs semaines encore. Il s'agit d'une période de 15 jours aux États-Unis minimum de rester à l'intérieur, mais elle sera probablement prolongée en fonction de l'évolution de la situation. Certaines juridictions ont imposé l'annulation des réunions religieuses. Il n'est pas possible de se réunir en groupe de plus de 10 personnes et dans certaines juridictions, les églises sont fermées et les réunions religieuses sont simplement annulées. Certaines imposent même à tout le monde de rester cloîtré chez eux. Il s'agit donc d'une situation qui évolue rapidement en plus. Or, certains ont pensé que nous ne devrions pas nous conformer à ces règlements. Ils ont utilisé les Écritures comme Actes 5, verset 29, où il est dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les Écritures nous disent que nous devons nous réunir le jour du sabbat. C'est le moment de la sainte convocation. Et ainsi, ces gens-là croient, estiment que c'est une situation où nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce qu'ils pensent. D'autres se demandent si nous n'enfreignons pas le commandement de Dieu dans Hébreux 10, Verset 25, où il est dit de ne pas renoncer à notre assemblée. Et certains se sont tournés aussi vers le psaume 91, versets 9 et 10, où il est dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Nous devrions donc faire preuve de foi et aller de l'avant et nous rencontrer, selon certains. Or, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il est écrit ceci, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Je pense que c'est très important, dans un moment comme celui-ci, nous ne devrions pas nous référer à une seule écriture sans consulter les autres et sans examiner toutes les écritures. Le Conseil des anciens s'est penché sur la question. Les dirigeants ici présents ont discuté de ces choses et nous sommes parvenus à certaines conclusions. Nous devons nous conformer aux règlements ou aux lignes directrices qui ont été adoptées, car la situation est différente de celle qui est décrite dans les Écritures. Nous devons comprendre le contexte de ces passages différents. C'est important. Dans Acte 5, par exemple, il ne s'agissait pas d'un ordre à court terme concernant une situation d'urgence. On leur disait de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ. C'était ça le contexte. Vous pouvez lire cela dans le verset précédent, celui que nous avons mentionné auparavant, et où il est dit « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? » Ce n'était donc pas quelque chose de temporaire basé sur une urgence. C'était un ordre d'arrêter vraiment de faire l'œuvre de Dieu. C'est autre chose. C'était une situation très différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Aussi, dans le psaume 91, je vais m'y reporter moi aussi, tiens, verset 9, je vais m'y reporter, psaume 91, verset 9, il est dit ceci, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. » Ainsi, aucune peste ou maladie épidémique, souvent mortelle, ne s'approchera donc de notre maison. Notons les deux versets suivants. La traduction que j'ai ici, rappelez-vous qu'il n'y avait pas de ponctuation dans le texte original. La traduction que j'ai ici rapporte ceci. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En lisant cela tout seul, nous pourrions dire, nous devrions nous rencontrer quand même. Dieu va nous protéger en toutes circonstances parce que nous lui obéissons. Nous connaissons assez bien cette écriture, bien sûr. Voyons maintenant ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4 et le verset 5, qui nous dit ceci, concernant la tentation du Christ. Le diable le transporta, Jésus, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Le diable a donc utilisé l'Écriture en s'adressant à Jésus. Quel verset? Il a utilisé les versets 11 et 12 du psaume que nous venons juste de lire. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Revenons à Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, « Il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Or, quand nous savons qu'il y a un danger grave, comme le virus mortel présent, celui qui circule, et que nous savons que nous sommes des êtres humains physiques, nous devons comprendre qu'il ne faut pas tenter Dieu comme le font certains pentecôtistes qui manipulent des serpents, boivent du poison ou autre chose du genre. Il y a quelques années, un homme de la Caroline du Nord, où la manipulation des serpents était illégale, faisait la une des journaux télévisés, car de temps en temps, il se montrait avec un serpent à sonnette. Il a fini par se faire mordre par le serpent et il est mort. Nous ne devrions pas faire ce genre de choses en ayant une attitude qui consiste à dire que nous pouvons faire n'importe quoi. Les circonstances actuelles sont différentes. Voyons des écritures relatives à la situation. Romains 13, nous dit ceci, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Quand on y lit les versets suivants, on voit qu'ils ont été écrits pour la société en général, pour la protection des personnes. Il y a des gens très intelligents qui travaillent dans ce domaine, les épidémiologistes, les scientifiques, les médecins, qui comprennent ce qui se passe. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils nous disent à ce sujet et ne pas croire que nous sommes des experts dans tous les domaines. De plus, ce qui est dit dans Proverbe 22, verset 3, est répété dans Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Donc, il y a une question de prudence ici. Il nous faut prendre ça à cœur. Ainsi, les assemblées de l'Église du Dieu vivant se dérouleront au cours des prochaines semaines par le biais de la retransmission en direct ou autres moyens électroniques tels que la téléconférence ou les DVD. Nous n'annulons pas les assemblées. Nous organisons des cultes, des réunions de culte, mais d'une manière un peu différente de ce que nous faisons normalement. Certaines de nos mères doivent parfois se rendre dans ce que nous appelons la salle des mères lors des assemblées et écouter par le biais d'une sorte d'interphone. Certains restent à la maison parce qu'ils sont malades et ont accès à l'assemblée par téléphone ou par Internet. D'autres vivent très loin des lieux de réunion et chaque semaine, ils ont accès aux assemblées de cette façon. Disons-nous qu'ils ne respectent pas le sabbat? Absolument pas. Ils font du mieux avec ce qu'ils ont et avec leurs circonstances. Nous devons faire preuve de sagesse en ce domaine. Nous devons être capables de voir le danger qui existe et nous cacher et ne pas tenter Dieu comme Satan a voulu pousser Jésus à le faire, à tenter Dieu. Donc, nous n'annulons pas les assemblées. Nous allons nous réunir pour adorer Dieu à chaque sabbat et il y a certaines choses à considérer en ce sens. Il est important pour nous de porter des vêtements de sabbat le jour du sabbat, même si nous sommes chez nous, et de garder le décorum typique que nous avons lors des assemblées régulières. Je sais qu'il y a quelques années, après l'éclatement de l'Église universelle de Dieu, nous nous sommes réunis en petits groupes, comme nous allons le faire maintenant en famille, malgré que les directives vont sûrement changer de ce côté-là aussi, peut-être deux ou personnes habitant pas loin. Encore une fois, un tout petit groupe. À l'époque, on faisait jouer des cassettes, des petites cassettes. La technologie a changé beaucoup. Mais maintenant, on doit se réunir pour l'assemblée de sabbat chez nous, seul ou avec les membres de notre famille physique habitant sous notre toit. Néanmoins, c'est ainsi que les gens doivent se rencontrer. Certains avaient autrefois l'habitude d'avoir une atmosphère très détendue lors de ces présentations spéciales de sabbat en mangeant des hors-d'œuvre pendant les assemblées, en arrêtant le DVD ou les cassettes pour pouvoir se lever et aller à la cuisine ou autre. Nous ne voulons pas prendre cette habitude. Nous voulons conserver le décorum des assemblées régulières. Nous allons avoir une réunion avec des cantiques, des prières d'ouverture, sermonettes, prières de clôture, sermons, annonces. Nous aurons aussi tout ce qu'il faut pour compléter l'assemblée. Et pour certains d'entre vous, vous y assisterez en direct, en ligne. Vous êtes très familier avec cette technologie selon la région. Dans d'autres régions, il s'agira de téléconférences ou d'autres moyens semblables. Les congrégations devront parfois être jumelées à d'autres congrégations par Internet pour apprendre à utiliser et à mettre sur pied de tels moyens de communication. À certains endroits, les gens n'ont pas encore fait l'expérience de ce genre de choses. Il va y avoir, bien sûr, une petite transition ici pendant une semaine ou deux pour y parvenir. Nous avons organisé une assemblée en direct en live stream le sabbat passé. Elle n'avait pas été annoncée à tout le monde, mais plusieurs congrégations ont assisté de cette façon. Je dis bien des congrégations, des individus, et nous avons eu plus de 1400 personnes qui ont été à l'écoute. Je dis des personnes, mais c'était plutôt en fait des connexions, 1400 connexions. C'était trop pour notre système et une partie de notre réunion n'a pas pu être diffusée à cause de cela, mais nous en avons tiré des leçons et nous allons augmenter la capacité de nos serveurs pour les assemblées prochaines. Maintenant, j'annonce un jour de jeûne qui aura lieu le sabbat du 28 mars prochain. Je pense que l'heure de l'assemblée a été fixée à 13 heures, mais vous pourrez vérifier avec votre bureau local. Il y aura des annonces qui vont suivre. Le 28 mars, donc, l'assemblée sera à 13 heures, heure de l'Est, l'heure d'été. Mais de toute façon, c'est l'heure de l'Est. Sur la côte ouest, ce sera 10 heures le matin. En Europe, ce sera plus tard dans la journée, avec un décalage de 5 ou 6 heures selon la région d'Europe où vous vous trouvez. C'est la même chose en ce qui concerne l'Afrique du Sud aussi. Il y a des décalages horaires. Nous aurons donc une assemblée en direct dans le monde entier pour ceux qui pourront en profiter le 28 mars. Ce sera donc le 28 mars prochain. Nous pouvons aussi fraterniser depuis chez nous, dans ces circonstances-là que nous allons vivre. Beaucoup d'entre vous peuvent utiliser Skype, par exemple, ou d'autres moyens pour parler aux autres membres de l'Église ou garder le contact avec différentes personnes. Il y a d'autres moyens de communication aussi que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi simplement décrocher le téléphone et appeler une autre personne avant ou après l'assemblée de sabbat pour fraterniser en ce jour. Il ne s'agit pas d'occuper toute la journée de cette manière, le jour du sabbat, mais c'est le moment de penser aux autres dans l'Église. Pensez aux veuves qui peuvent se sentir seules et même à une personne célibataire plus jeune qui peut être seule à la maison à un moment où celle-ci est seule et à qui vous pourriez parler pendant quelques minutes le jour du sabbat. Ainsi, un vendredi soir ou un sabbat, on peut se retrouver de cette façon-là. Avec la technique, nous pourrons organiser les assemblées et nous rassembler de cette manière autant que possible. Il est particulièrement important de tenir compte de ceux qui sont seuls. Pensons aux autres qui sont seuls en particulier. Renseignez-vous auprès de votre ministre local. Ne vous fiez pas surtout aux rumeurs. Les rumeurs circulent et elles sont souvent fondées sur des demi-vérités. Lorsque l'Église, après avoir discuté, a décidé de ne pas faire quelque chose qui était basé sur des demi-vérités, les gens partent souvent des rumeurs à ce sujet. Alors, adressez-vous à votre ministre local et s'il y a des questions, il s'adressera à son pasteur régional et à la chaîne d'autorité. Nous ne voulons pas que les gens choisissent en disant, eh bien, je pense que je vais me joindre à l'assemblée en direct ici plutôt que celle de la région dans laquelle je me trouve. Branchez-vous à votre région, là où vous appartenez. Demandez conseil à votre ministre, à votre pasteur local, à votre directeur régional pour être guidé dans ce domaine et tenez-vous au courant de ce qui se passe, car chaque région du monde et dans la mesure où cela va de soi, chaque région d'un pays peut être différente. Et il est très important de savoir ce qui se passe dans votre région. N'allez pas d'un ministre à l'autre ou d'une région à l'autre en contact pour vous faire dire ce que vous désirez entendre. Cela ne profitera à personne. Les célébrations de la Pâque et les pains sans levain vont évidemment être touchés par cette situation. Votre directeur régional ou votre ministre local donnera bientôt des instructions à ce sujet et nous vous enverrons des directives et des informations depuis le siège central de l'Église, par courrier électronique et même sur papier, car je sais que certains d'entre vous en auront besoin. Mais nous enverrons très rapidement des informations à ce sujet. Il est vraiment important aussi que nous réfléchissions au sujet de la Pâque, car elle doit être observée au temps convenable. Même pour les pains sans levain aussi, il faut observer ces fêtes au bon moment. Nous savons que les pains sans levain, c'est le lendemain soir de la Pâque. La Pâque est dans cette période crépusculaire, après le coucher du soleil. Nous devons maintenant comprendre qu'il y a une gamme de crépuscules allant de l'instant où le soleil se couche à celui où il fait nuit. Et même là, c'est un peu subjectif quant à l'obscurité et au degré de nuages et ce genre de choses. Votre ministre local, vos directeurs régionaux travailleront donc avec vous autant que possible afin d'organiser une transmission en direct pour ceux où il est possible de passer la Pâque et les jours de pain sans levain. Et je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet pour l'instant. Je vais garder cela pour la semaine prochaine pour les annonces qui sont à venir aussi. Nous devons reconnaître que cela aura un impact sur la Pâque, sur la soirée mémorable. Certains d'entre vous ont déjà des projets pour recevoir 20, 25 ou 15 personnes chez eux, et ces projets doivent être maintenant modifiés à cause de l'évolution de la situation. Nous devons nous en tenir à la limite fixée par le gouvernement. Ici aux États-Unis, c'est 10 personnes ou moins, de préférence avec votre famille. Nous ne voulons pas mélanger les personnes âgées et les jeunes, car les jeunes transmettent souvent les maladies aux personnes âgées. Même pour les jeunes, encore une fois, les choses changent très rapidement et on dit maintenant que la moitié des personnes qui se retrouvent aux soins intensifs ont moins de 65 ans. C'est ce qui est sorti ce matin. Nous devons donc reconnaître que le moment est venu de faire preuve d'une prudence excessive, très grande. Et lors de la soirée mémorable, après avoir visionné le message diffusé sur DVD ou en direct, ou quelle que soit la manière dont vous allez recevoir ce message, vous pourrez, lors du repas, être en contact par ordinateur avec une ou plusieurs autres personnes de l'Église ou familles de l'Église ce soir-là et échanger d'une manière différente qu'on le faisait d'habitude. Vous pouvez faire ça, c'est possible. Je pense qu'il est très important que nous soyons créatifs à ce sujet dans le cadre des lignes directrices générales dont nous disposons. Ici à Charlotte, comme dans d'autres endroits du monde où nous avons un bureau de l'Église, nous demandons le plus possible à notre personnel de bureau de travailler depuis leur maison, depuis leur résidence. C'est très important. Chaque fois qu'une grippe circule, elle semble atteindre tous ceux qui travaillent au bureau. Donc, nous allons travailler à partir de la maison. Nous prenons des précautions supplémentaires pour désinfecter les portes et autres objets pour protéger les quelques personnes qui doivent travailler au bureau. Par nécessité, certains devront probablement travailler à des heures réduites aussi à partir d'ici, mais ils travailleront aussi à la maison. Le travail ne s'arrête en aucun cas. Donc, si vous avez du mal à nous contacter au bureau, même si nos téléphones devraient pouvoir nous transférer les appels, vous devriez pouvoir trouver comment contacter directement ceux que vous pouvez avoir besoin de rejoindre. Ne prenez pas l'actuelle crise à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas à la légère la situation actuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui pensent que, bon, c'est un mouvement de panique, c'est exagéré ce qu'on entend. Écoutez, les statistiques peuvent parfois paraître exagérées. Nous ne le savons tout simplement pas. Même les autorités ont encore du mal à comprendre ce qui arrive et ce qui se passe et comment ça se développe. Mais ce que nous voyons, c'est que le gouvernement après gouvernement, toute l'Europe, toute l'Asie, ici aux États-Unis et au Canada, nos chefs de gouvernement ferment des établissements, ce qui a de graves répercussions sur l'économie des pays. Et aucun pays ne veut cela. C'est pourquoi ils prennent cela très au sérieux. J'ai lu certains rapports, certaines données techniques à ce sujet, indiquant ce qui peut arriver. Et je pense que ce qu'ils examinent, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais ce qui nous arrivera peut-être si nous ne prenons pas des mesures drastiques. Donc, ne prenez pas cela à la légère. Ecclésiaste 3, je veux tourner à Ecclésiaste 3, je veux aborder ce point parce que je pense que c'est très important pour la façon dont nous nous conduisons lorsque nous sommes ensemble. Il est dit ici, dans le chapitre 3 du livre d'Ecclésiaste, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et remarquez ce que dit le verset 5. « Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. » Quand j'étais au Mexique, il y a quelques mois, nous étions dans une congrégation très chaleureuse et aimante, où les gens se donnaient des baisers sur la joue, un saint baiser, pourrait-on dire, et beaucoup d'accolades chaleureuses. Mais il y a des moments où il faut s'abstenir de ces embrassades. Et ce que j'espère que vous retiendrez de mes commentaires, c'est de reconnaître qu'il ne faut pas attendre qu'un de vos proches tombe malade parce qu'il pourrait être trop tard pour vous, les membres de votre famille ou pour quelqu'un d'autre. N'attendez pas que la situation s'aggrave encore. Faites-le maintenant. Changez vos comportements. Nous pouvons vous faire signe. Nous pouvons pas besoin de se saluer avec un coup de coude et tout ce qui s'ensuit. Nous disons à tout le monde d'éternuer, de tousser dans le coude, et après ça, on se donne des coups de coude. C'est pas très prudent. Par conséquent, c'est pas très sage de faire ça non plus. Nous pouvons simplement saluer par un signe. Changeons de comportement. Nous pouvons simplement souffler un baiser de loin. Il faut changer de comportement parce que le monde change et c'est dangereux. Changeons nos habitudes. Lavons-nous les mains régulièrement. Évitons de toucher notre nez, nos yeux, nos lèvres quand on n'a pas les mains propres. Et si nous touchons notre nez, lavons-nous les mains afin de ne pas risquer de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Changeons ces comportements dès maintenant, car littéralement, nous en sommes au point où un baiser pourrait donner la mort à quelqu'un. Ça pourrait être un baiser de la mort. Ça fait drôle de dire ça, mais ça peut être la réalité. Je ne veux pas semer la panique à ce sujet, mais cela peut littéralement être le cas. Une étreinte, un baiser ou même une poignée de main peuvent être mortelles pour quelqu'un d'autre. Alors, s'il vous plaît, prenez ces choses au sérieux. Prenez ce virus au sérieux. Changez de comportement maintenant. N'attendez pas que quelqu'un de votre entourage tombe malade. C'est le moment pour vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez aider les autres en toute sécurité. Pensez aux veuves, aux personnes âgées qui peuvent avoir besoin de quelqu'un pour faire les courses à leur place. Elles ne sont peut-être pas en mesure de se rendre dans 3 ou 4 magasins différents pour y chercher des lingettes pour les mains ou un carton de lait ou de la nourriture ou tout ce qu'elles pourraient avoir besoin dans les rayons. Pensez aux personnes qui vous entourent et ne vous limitez pas non plus aux gens de l'Église. Là encore, prenez des précautions par contre pour vous protéger. Mais si vous devez sortir et que vous voulez aller chercher un article pour un voisin ou un membre de l'Église ou un membre de la famille, vous le savez, cette personne-là peut avoir besoin d'aide, appelez-les. Mais prenez absolument soin les uns des autres dans l'Église, mais avec prudence. Soyez des lumières dans votre communauté, mais faites-le de manière sécuritaire autant que possible. Soyez une lumière dans votre communauté. Et enfin, prions les uns pour les autres et prenons soin les uns des autres. Nous nous verrons la semaine prochaine, à peu près autour de la même heure.